Culture, les matins d'été, Olivia Gesbert.
Alors que l'Irak dimanche et l'Arabie Saoudite lundi ont été durement frappés par une série d'attentats meurtriers, la France s'interroge elle aussi sur sa capacité à se protéger de la menace terroriste. Les attentats de janvier et de novembre l'an passé ont révélé des failles de nos services de renseignement et de sécurité intérieure, estime un rapport paru hier de la commission d'enquête sur les moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme, menée cette commission pendant 6 mois par le républicain Georges Fenech et le socialiste Sébastien Pietras. Alors, 39 propositions font suite à ce constat, appelant à une réorganisation profonde de nos services. Ici comme ailleurs, toujours la même question, comment prévenir les actes terroristes, comment combattre Daesh? Ils sont avec nous depuis 7h20, Béatrice Brugère, ancienne juge antiterroriste, secrétaire générale du syndicat FO Magistrat, Olivier Chopin, également chercheur à l'EHESS et spécialiste des questions de renseignement, et le chercheur en sciences politiques Arthur Quenet, spécialiste de l'Irak, jeune chercheur au collectif Noria, co-auteur de Syrie, anatomie d'une guerre civile, un ouvrage paru au printemps aux éditions du CNRS. Rebonjour à tous les trois. Arthur Quenet, le contexte international d'abord avec vous, marqué par ces récents attentats au Moyen-Orient et en Asie du Sud. L'Irak, vous y étiez encore le mois dernier, la ville de Fallujah, reprise par l'armée irakienne avec l'aide de la coalition à l'État islamique après 2 ans et demi d'occupation. Les autorités disaient que Bagdad était enfin sécurisée. La preuve que non, après l'attentat de dimanche, qui compte parmi les plus meurtriers jamais commis par l'État islamique. Quelle est la situation réelle en Irak, sécuritaire mais aussi politique?
Bonjour, c'est donc la spécificité de l'État islamique de pouvoir allier non seulement des opérations militaires sur différents champs de bataille, tenir des villes, tenir des sièges, mais également pouvoir frapper à l'étranger, donc série d'attentats dont était victime notamment la France, vous l'avez mentionné, mais également sur le sol irakien. Donc l'État islamique n'est absolument pas défait en tout ce qui concerne ces cellules d'opérations clandestines. Il faut rappeler que l'État islamique est l'héritage de trois dynamiques. Premièrement, l'héritage du régime baasiste, donc un pouvoir sécuritaire, un régime bureaucratique extrêmement violent contre les populations qui sont sous son contrôle, mais également le produit des prisons, peut-être en écho à ce qu'on disait tout à l'heure, les prisons américaines entre 2003 et 2011 ont été un terreau d'endoctrinement, de radicalisation et de construction des réseaux de l'État islamique en Irak. Et enfin, l'État islamique est le produit de tout ce qui a été répression du gouvernement irakien, des forces américaines en Irak. Et donc l'État islamique s'est extrêmement bien adapté à des ressources énormes, tout ce qui est matière de réseaux clandestins, et peut continuer à mener de nombreuses opérations d'attentats, bien qu'il risque d'être défait militairement sur le territoire.
Et c'est un homme de terrain qui nous parle ce matin, Olivier Chopin, de la Libye à l'Irak, en passant par la Syrie. On avait le sentiment donc que l'État islamique perd du terrain, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, mais pour autant l'organisation ne perd pas sa capacité de nuisance.
Non, de toute façon, le modèle antérieur qui était incarné par Al-Qaïda n'avait pas de base territoriale. C'était des réseaux qui étaient déterritorialisés et qui fonctionnaient sur X micro-théâtres d'opérations. Donc, Daesh n'a pas besoin d'une base territoriale en progression ou en régression pour être capable de frapper à l'étranger, comme le disait Arthur à l'instant. C'est une organisation qui a cette caractéristique de pouvoir mener deux types de politiques en même temps. Donc, on peut même supposer que, évidemment, à mesure que la pression locale sur le terrain se fera, ou qu'on lui interdit le développement de nouveaux terrains, comme ce pourrait être le cas en Libye.
L'organisation va trouver d'autres manières de se manifester.
Ça va être une forme de pression. Évidemment, quand on atteint le gouvernement turc ou la Belgique, c'est une forme de pression sur des acteurs qui sont susceptibles de les atteindre là-bas.
Olivier Chopin, est-ce à dire pour autant que nos actions, celles de la coalition internationale, nos actions militaires, cette intervention ne sert à rien? Qu'en tout cas, c'est pas la bonne réponse, la bonne riposte en matière de terrorisme.
Le dire comme ça, ce serait vraiment faire une espèce de jugement politique global. En soi-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi-même, les actions qu'on va mener là-bas sur le terrain ne peuvent être qu'un élément parmi X autres éléments d'une sécurisation de notre espace.
Elles ne suffisent pas à nous protéger.
Non, ouais. Voilà. Après, est-ce qu'il est opportun ou non de lutter contre Daesh là-bas? À nouveau, je crois que nous aussi, on devrait avoir l'idée que nous menons plusieurs types de politiques de sécurité en même temps. Certaines qui sont ici de sécurisation de notre territoire, de lutte contre des mécanismes sociaux nationaux qui peuvent mener à la radicalisation, et puis des opérations extérieures qui ont des vocations géostratégiques ou géopolitiques. D'autres pays qui ne sont pas en train d'agir en Irak ou en Syrie pourront très bien être atteints par Daesh. C'est pas forcément l'unique facteur. Donc il y a évidemment une relation dynamique permanente entre ceux qui luttent contre ces organisations terroristes et ces organisations terroristes qui luttent contre nous. Qui est à l'origine de quoi ? En fait, on est dans une relation dont la cause originelle se perd dans le temps, si vous voulez. Donc évidemment, plus nous allons agir contre Daesh, plus nous serons une cible. La France est une des cibles prioritaires de Daesh depuis plusieurs années parce que nous sommes l'un des pays qui agit le plus aux côtés des États-Unis, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, contre les organisations terroristes. Donc évidemment, cela nous place au centre du système de ciblage des terroristes. Est-ce qu'il faut pour autant ne rien faire ? Bon, la question syrienne, irakienne est complexe, puis ça fait plusieurs années qu'on est dessus. Sur des terrains comme la Libye, est-ce qu'on est, oui ou non, capable d'empêcher un État de dégénérer l'État libyen n'existe presque plus, dans une logique complètement terroriste ? C'est une vraie question géostratégique, et la responsabilité peut être de devoir intervenir au prix, évidemment, d'attentats terroristes chez nous, mais c'est évidemment un calcul qui est fait par nos gouvernants de manière raisonnée.
Celle de la stabilité politique à laquelle on pourrait peut-être contribuer. Béatrice Brugère, pourquoi si peu de réactions en Europe et en France à ce qui s'est passé là-bas, au Moyen-Orient, à cette vague d'attentats qui a été, on le disait, extrêmement meurtrière, notamment en Irak dimanche. Ce qui se passe là-bas ne nous regarde pas.
Alors, si peu de réactions, c'est-à-dire que je pense en effet que on subit un phénomène qui est celui de se concentrer sur soi-même, un peu nombriliste, et qu'on a tort d'ailleurs de le faire, puisque en regardant ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, on apprendrait beaucoup sur ce qui nous attend sur notre avenir. Parce que, comme cela vient d'être dit très justement, on a affaire quand même à un phénomène assez ancien, très adaptable, sur un conflit très complexe, sur lequel on est allé. Donc ça, c'est un choix politique, mais maintenant, on l'assume. Et c'est vrai que il faut absolument réintroduire la question géopolitique, mais c'est une question politique, hein, dans la manière dont on va, j'allais dire, traiter le terrorisme, parce que comme ça a été très bien dit à l'instant, quand ils reculent, j'allais dire, sur les territoires extérieurs, ils attaquent davantage en Europe, et ils cherchent un système de bouc émissaire, ou en tout cas de ciblage, qui fait que la France est au premier rang. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, cette manière de se concentrer un petit peu sur nos propres attentats. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, et puis il faut le faire correctement.
Vous craignez en somme un effet boomerang aujourd'hui.
Oui, mais c'est-à-dire que en fait, on vit le choc de la mondialisation. C'est ça qu'il faut accepter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des relations internationales. On est sur le choc de deux mondialisations, la nôtre, avec des frontières ouvertes, une libre circulation, et une autre vision de la mondialisation, qui est celle de Daesh, qui, elle aussi, utilise, j'allais dire, les mêmes armes, la libre circulation, les mêmes armes, pour imposer sa vision du monde. Donc on est dans un conflit assez complexe, et c'est vrai que ça serait une erreur de rester très franco-français sur cette question, mais je crois pas que ce soit réellement le cas.
Le chaos là-bas peut repousser ici, voilà ce que vous nous dites tous les deux, Olivier Chopin, Béatrice Brugère, Arthur Quenet. Un rapport va paraître aujourd'hui, il est très très attendu, il a été commandé il y a 7 ans, c'est le rapport Chilcot, du nom du John Chilcot, le président de la commission d'enquête sur l'engagement du Royaume-Uni dans la guerre en Irak. Rapport très sévère, à en croire les premières informations qu'on en a, sur le choix de l'ancien Premier ministre Tony Blair d'intervenir dans la guerre en Irak en 2003 sans raison valable, c'est-à-dire sans que la présence prétextée à l'époque d'armes de destruction massive ait pu être vérifiée. C'est fou, presque plus de 10 ans après, 13 ans après, on en est encore à se poser les questions de ce qu'on a fait, le nous étant les Occidentaux, là-bas, en Irak, et des conséquences que ça peut avoir aujourd'hui. Bien sûr pour les familles des soldats qui ont été tués, mais aussi pour l'ensemble du contexte géopolitique, Arthur Quenet.
Dans le cas de l'Irak, très peu de leçons ont été tirées finalement des interventions de la coalition américaine et des forces britanniques. Finalement, la lecture du conflit est restée très militaire. On a oublié tout ce qui était variable politique. La société irakienne et le système politique irakien, pourtant, se sont reconstruits dans une dynamique de violence, de guerre, etc., depuis 2003, extrêmement difficile. Et je pense qu'au lieu de se concentrer sur les relents de différentes occupations occidentales qui ont pu avoir lieu en Irak, à travers la présence américaine et britannique, il faudrait davantage revenir sur les problèmes politiques actuellement que pose le conflit contre l'État islamique et les rivalités entre les forces politiques chiites, kurdes dans le nord du pays, la marginalisation des acteurs politiques arabes sunnites irakiens, qui pose un réel problème, savoir comment reconstruire l'Irak de demain. La même question va se poser évidemment dans le cas de la Syrie, mais aussi de la Libye.
Et puis de la Libye, ouais. Ouais.
Et si on se dit qu'on reste dans des dynamiques globalisées, dans un monde de plus en plus interconnecté, il faudrait quand même pas oublier qu'il y a des États au Moyen-Orient qui continuent d'exister avec des institutions, des structures. C'est peut-être via des logiques de développement, de soutien, de politiques publiques, etc., plus précises, qu'on pourrait arriver justement à endiguer ces phénomènes de violence qui deviennent massifs au Moyen-Orient.
Olivier Chopin, la France est en guerre. Le rapport Fenech paru hier s'ouvre sur ces mots. Dans ses conclusions, la commission Fenech propose d'intervenir militairement en Irak. Enfin, la France réagit, voire décide d'agir.
Je ne sais pas si la mesure d'intervenir en Irak, là je laisserai Arthur s'exprimer plus précisément là-dessus, est la bonne façon de réagir, parce qu'on est déjà engagé de façon en Syrie, et du point de vue de Daesh, le théâtre irakien ou syrien sont quand même totalement connectés. Donc il y aurait un aspect symbolique si la France d'un seul coup se mettait à intervenir en Irak après que les Américains et les Britanniques s'en soient dégagés.
Alors je vous redonne la parole, mais juste Arthur Kenner, du coup sur cette proposition du rapport...
Je pense que c'est une non-proposition. Intervenir en Irak, c'est l'enlisement absolu. Ça n'a aucune répercussion militaire majeure. Et je doute même que la France ait les moyens de s'engager dans un conflit aussi long.
Voilà, il y a 39 propositions. On en a déjà retoqué une. Olivier Chopin, poursuivez.
Oui, non, je pense que les propositions qui sont plus de l'ordre de la réaction réelle concernent plus la réforme, la continuation, la poursuite de la réforme du renseignement intérieur et de la sécurisation du territoire. On voit sur les 39 propositions, d'ailleurs, la plupart concernent des éléments de politique intérieure. Et puis il y a ces propositions sur une intervention en Irak, une sorte d'extension de notre logique de conflit à l'extérieur, qui me paraissent assez exogènes. Donc je crois que le cœur, le foyer de ce rapport est quand même intéressant, c'est de faire la part entre le renseignement pénitentiaire, les questions sociales liées à la radicalisation d'un côté, la continuation de la transformation de notre dispositif de sécurité qui a été initié en fait en 2008 suite à des réformes notamment constitutionnelles, des réformes globales du secteur, mais qui s'accélère depuis les attentats de novembre et de janvier. On ne cesse de réformer nos services et là on nous propose de réformer encore plus les services de renseignement. Et puis il y a dans le rapport toute une analyse des dysfonctionnements qui ont eu lieu le jour J en cadre de réaction de contre-terrorisme pur, le jour où l'attentat se produit, où là il y a eu un certain nombre de mécanismes assez choquants de non-intervention entre les services de forces spéciales de la police qui n'étaient pas en charge réellement des opérations sur le terrain, ou les militaires qui étaient armés face au Bataclan et qui n'ont pas pu soit agir, soit donner leurs armes aux forces de police qui, elles, avaient le droit d'intervenir. Bon, là, il y a tout un diagnostic de la façon dont une force de police peut réagir, une structure de sécurité peut réagir au moment où il y a un choc qui se produit lors de l'attentat. Bon, ce rapport a vraiment beaucoup d'intérêt sur la contribution à la réflexion globale dans ce pays, de comment est-ce qu'on peut réagir et se préparer mieux pour la suite.
Est-ce qu'il était urgent ce rapport? Est-ce qu'il arrive aussi au bon moment? On évoquait les titres de la presse tous les trois autour de 7h20. La presse régionale a beaucoup réagi notamment à ce rapport en estimant qu'il est grand temps de repenser effectivement la riposte au terrorisme. La presse qui revient aussi sur ce rapport en des termes quand même assez alarmistes. Un rapport alarmant pour Ouest-France qui met en cause l'ensemble de nos organisations datées, inefficaces, parfois concurrentes souvent, dit Le Quotidien. Il faut s'unir pour riposter. La Charente libre parle aussi d'une situation alarmante à la lecture de ce rapport et aussi d'un rapport lucide. S'il n'y a pas eu de gros ratés, explique Le Quotidien, la France n'était pas prête et n'est toujours pas à la hauteur de la menace djihadiste. Vous partagez ce constat, Béatrice Bogère?
Oui, alors déjà, je partageais déjà tout ce qui vient d'être dit par Olivier Chopin hein, sur l'ensemble du rapport. Moi, je trouve que ce rapport, il était nécessaire et c'est ce qui manque en France. C'est-à-dire que on est dans une stratégie de faire des lois à chaque fois qu'il y a un attentat, sans faire le bilan de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas.
Alors là, c'est pas des lois, c'est des propositions oui. Donc, qui, a priori, font exactement. Le bilan déjà de ce oui. qui n'a pas marché et de ce qui pourrait.
Exactement. Et par rapport à ça, si vous voulez, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il ne soit pas intervenu tout de suite après les attentats de Charlie. Parce que depuis, on a déjà fait de nouvelles lois, donc on a déjà raté peut-être le moment d'avoir cette réflexion, parce que qu'est-ce que ça veut dire très clairement, même si on retoque la moitié des propositions ou qu'on n'en retient que quelques-unes, ça veut dire qu'il va falloir quand même repenser de manière législative, hein, si on lit très bien ces propositions, la lutte contre le terrorisme. Donc encore une fois,
refaire une loi.
Exactement. Mmh. Oui, non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que sans déjà obérer pour savoir si ces propositions elles sont légitimes ou pas, ça je veux dire ça fera l'objet d'un débat et merci pour ce rapport justement de faire ce débat de façon lucide et sans prendre parti de façon partisane, parce que ça aussi c'est très intéressant, c'est un peu nouveau, c'est quand même une commission d'enquête où on a des parlementaires de toutes les tendances qui ont réussi à faire des propositions dans un temps à la fois très limité.
Mais en dehors de la traduction oui. législative ou pas de ces propositions, quelles sont celles qui vous semblent vraiment urgentes et intéressantes? Alors, sur oui. les 38 restantes.
Alors, non, excusez-moi, oui, je disais ça parce qu'en fait, je vais vous prendre deux exemples pour voir que la méthode, elle est déjà essentielle. C'est qu'on a fait une loi sur le renseignement pénitentiaire. Loi qui avait déjà été, j'allais dire, abordée lors du vote sur la loi sur le renseignement tout court. À cette époque, nous, en tout cas, on avait déjà dit qu'il fallait absolument faire monter en puissance le renseignement pénitentiaire. Ça a été balayé parce que, justement, il n'y avait pas ce bilan, il n'y avait pas cette méthode. Aujourd'hui, ça a été récupéré il y a quelques mois sur la dernière loi qui a été votée sur le terrorisme. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans le rapport? Je prends que cet exemple parce qu'il est très symptomatique de notre manière de travailler. C'est qu'on a mis des effectifs. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux a dit, voilà, on a mis, je crois, de mémoire, 400 personnes pour faire du renseignement pénitentiaire, et je n'ai aucune remontée. C'est très intéressant aussi par rapport à la première question de ce matin sur ce qui se passe, j'allais dire, dans les unités dédiées et la radicalisation. C'est qu'en fait, il suffit pas de mettre des effectifs. Il faut d'abord avoir une doctrine claire, une vision. Et pour avoir une vision, il faut faire un bilan et qui puisse mettre tout ça à plat. Donc aujourd'hui, j'espère que ce rapport permettra de prendre le temps de penser l'urgence autrement que de faire des lois après chaque attentat.
Voilà. Donc, ça, c'est, vous savez que la notion de temps est justement oui, fondamentale dans ce rapport.
Elle est fondamentale, hein, pour je suis tout à fait d'accord.
Les parlementaires qui l'ont rédigé, on a perdu trop de temps. Le renseignement pénitentiaire n'a pas été à la hauteur parce qu'il a été trop lent. Il faut réagir de manière plus rapide aujourd'hui. Hein.
Mais c'est surtout que c'est ce qu'on voit comme sur les unités dédiées, c'est qu'il n'y a pas de doctrine. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui disent encore il faut concentrer les détenus dangereux, alors que d'autres disent non, il faut les isoler. Certains disent il faut leur faire du sport, quand d'autres disent il faut du volontariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, après deux attentats, on est encore dans l'incertitude sur la vision stratégique et sur la doctrine. Donc les moyens, c'est une chose, mais si vous n'avez pas une vision stratégique, ça ne sert juste à rien. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans ce rapport, on a 400 personnes qui font du renseignement pénitentiaire et on n'a aucune remontée d'informations. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas formés pour ça.
Olivier Chopin.
Moi, je trouve que, bon, au-delà voilà, du rapport, de l'introduction du renseignement pénitentiaire, dans le renseignement global, il y a aussi deux mécanismes dans ce rapport qui sont intéressants. Le premier, c'est la poursuite de la logique de la loi du renseignement de juillet 2015. On avait remarqué à ce moment-là que c'était la première loi sur le renseignement en France, hein, la loi de l'été dernier qui réagissait aux attentats de Charlie Hebdo. Alors le gouvernement avait choisi cette loi comme mode de réponse aux attentats de Charlie plutôt que de faire une revue globale de ce qui était à repenser. Donc là, entre guillemets, c'était la première loi pour une démocratie. C'est intéressant de faire des lois explicites et officielles sur le renseignement. C'était la première, certainement pas la dernière, on avait pu le dire à l'époque, parce qu'elle initie un mouvement de réforme. Donc là, on voit qu'on va renforcer ce mouvement de réforme, ou le parachever, si on peut dire, avec techniquement des réunions de services. La préfecture de police de Paris a des services de renseignement qui ne sont pas liés aux autres services qui vont être reconnectés aux services du ministère de l'Intérieur. Et on va créer auprès de Matignon un service central, en quelque sorte, de lutte contre le terrorisme. Comme si on allait sortir la fonction contre-terrorisme des autres services de renseignement pour la recentraliser auprès du Premier ministre. Bon, c'est toujours un gros problème dans une démocratie. Vous avez plusieurs services avec des cultures professionnelles très fortes, des missions éventuellement différentes qui se recoupent. Comment vous coordonnez ? Comment vous coordonnez en général pour anticiper la menace ? Comment vous coordonnez en particulier quand vous êtes attaqué ? Et c'est des problématiques très différentes. Donc l'idée, c'est de centraliser au maximum. Et puis il y a un mouvement de retour en arrière. Parce qu'en fait, depuis 2008, l'un des effets de la réforme globale du renseignement avait été la quasi-suppression du renseignement dit territorial, d'un renseignement quotidien auprès de la population qui permet de repérer ce qu'on appelle les signaux faibles. Et donc là, on avait quasiment détruit cette capacité en la fusionnant dans des structures plus hautes et plus intensives. Et on va recréer cela, et notamment avec la réintroduction de la gendarmerie par plusieurs aspects dans le dispositif de renseignement, parce qu'on avait exclu les gendarmes de la sécurité alors qu'ils couvrent la quasi-totalité du territoire.
Donc ce qu'il faut espérer maintenant aussi aujourd'hui, Olivier Chopin, c'est que ce rapport soit rapidement digéré, compris, appréhendé et qu'on arrive à le traduire pratiquement dans les plus brefs délais.
Il faut que l'État s'en saisisse, là, ces rapports parlementaires, qu'on y réfléchisse et que l'État dise ce qui peut en sortir en termes de continuation ou d'amélioration de la réforme.
Merci beaucoup Béatrice Brugère, merci Arthur Quenet, merci à vous Olivier Chopin, merci d'être passé par nos studios.